La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Alors, vous êtes toujours dans la quotidienne, et non, ce n'est pas la voix de Michel Cloutier que vous entendez, c'est la voix d'Izzy Lévesque. On est toujours en compagnie de mes amis, hein, Simon, Michel et Guy de Bailleul. Et là, on parlait du deuxième fascicule.
Oui, alors, c'est l'exercice en cours de la consultation nationale sur la loi de protection du secteur agricole. Comme on l'expliquait en début d'émission, ça nous interpelle beaucoup ici à l'Institut. Et là, on est en train de, quand on s'est quitté, on est en train d'expliquer que, bon, ben, les données dans ce deuxième fascicule qui traite de l'usage, qu'est-ce qu'on fait de notre secteur agricole, sont quand même intéressantes à un point de vue, surtout, c'est qu'on a analysé le taux d'acceptation par la Commission de protection du secteur agricole de demande d'exclusion, donc faire d'autres choses avec une parcelle de terrain ou d'usage autre que l'agriculture. Et on voit que, bon, il y a quand même un taux d'acceptation assez considérable pour des usages, entre autres résidentiels, et beaucoup en Montérégie. Alors, l'idée que la loi de protection du col étouffe un peu les communautés rurales, ben c'est peut-être à mettre en bémol. En tout cas, ça fera certainement partie des échanges qu'on aura dans le cadre de cette consultation-là. Mmh, maintenant, messieurs, il y a quand même à la fin du fascicule 1, c'était le cas, c'est aussi le cas du fascicule 2. À la fin du document, on lance des éléments de réflexion, comme des questions qu'on pose aux gens qui veulent intervenir dans le cadre de consultation. Il y en a des intéressantes. Est-ce qu'on doit diversifier l'agriculture? Est-ce qu'on doit permettre des usages comme l'agrotourisme plus facilement? Des questions comme ça. Mais il y a encore une grande absente. On en a parlé un peu en entrée de jeu, mais la question, est-ce qu'on doit revoir nos modes de financement de l'agriculture? Elle n'est pas là. Et nous, on le voit, puis l'étude dont Guy parlait de Mme Ruiz, qui est en annexe au fascicule 1 et qui, dans le fond, elle est très parlante et très instructive, bien, ça le pose en entrée de jeu, Guy le soulignait. Un des principaux facteurs qui détermine l'usage qu'on fait de notre terre agricole, ce sont les politiques de soutien à l'agriculture. Et entre premier chef, peut-être, Michel, on pourrait l'expliquer un peu, l'ASRA, l'assurance stabilisation des revenus agricoles. Donc, tu connais très bien les rouages.
Oui, je connais bien les rouages pour avoir été à la financière agricole, d'une part, mais aussi pour avoir passé une année à produire un document qui propose autre chose que l'ASRA et qui décrit assez clairement les effets pervers, si on veut, de ce programme-là qui n'a pas été modifié de façon substantielle au cours des... Attendez un petit peu... 40 quelques années, certainement 40 années, ce qui est unique dans ce domaine-là, n'est-ce pas, Guy? Normalement, les politiques sont revues au moins de façon à évaluer où est-ce qu'on en est à tous les 5 ans, ce qui n'a jamais été fait pour l'ASRA. Et donc l'ASRA a amené un changement important dans notre modèle d'agriculture, notamment par l'implantation du maïs, le développement de façon absolument fulgurante là, de cette production-là et du soya dans les basses terres de la vallée du Saint-Laurent, et le porc également, donc les deux sont tout à fait liés, où le porc, on a, je ne sais plus trop, quintuplé certainement notre production porcine au cours de cette période-là. Donc, c'est quelque chose pour lequel, à un certain moment, il aurait fallu qu'on fasse l'évaluation où est-ce qu'on en est.
Guy, j'aimerais qu'on aborde... L'Institut, au cours de l'été, on a produit, justement, face à la crise que vit le secteur porcin actuellement, là, tout le monde on connaît les difficultés de l'IMEL, on connaît la demande de réduire d'un million de têtes le cheptel, les difficultés du marché, des producteurs qui doivent abandonner la production. On a produit, nous, un document au cours de l'été interpellant les décideurs et c'est un peu ça. Là, est-ce que, c'est, avec la crise porcine, est-ce que c'est pas le temps, enfin, maintenant qu'on voit les effets pervers, on les a en pleine figure? Est-ce que ce n'est pas le temps, enfin, de revoir nos politiques de soutien de ces productions-là? Ça fait longtemps que l'Institut le prône, mais là, avec ce qui se passe, est-ce que c'est vraiment pas le temps de le faire?
Tout à fait. Dans des contextes comme ça, je me rappelle toujours une citation d'un ministre français de l'agriculture qui a un peu joué le rôle de Jean Garon à l'échelle de l'agriculture française, c'était Edgar Pisani, et qui avait écrit dans un ouvrage... une fois qu'il avait pris sa retraite comme ministre, il avait écrit une fois dans un cet ouvrage, Le vieil homme et la terre, je pense, que lorsqu'une politique agricole marchait, il faudrait en changer. Parce que si elle marche, c'est qu'elle atteint les objectifs qu'on lui a attribués, et donc il faut passer à autre chose. Et il disait, le problème, c'est qu'on ne change jamais les politiques agricoles, on rajoute des couches. Et on est un peu dans cette situation, on n'a jamais revu fondamentalement les principes sur lesquels devait s'appuyer notre politique, nos instruments essentiels de politique agricole. Et pourtant, Dieu sait si c'était souligné dans le rapport Pronovo, dans le rapport Saint-Pierre, et on en revient toujours à ça. Et tant qu'on ne remettra pas ça en place, la loi de protection du territoire agricole, avec l'exercice de consultation qui est lancé, devrait nous amener à nous interroger non pas seulement sur les spécificités de la politique de protection, mais sur tout le reste, c'est-à-dire les activités agricoles et les mécanismes qui font que ces activités changent. Comme on vient de le voir, il n'y a pas un constat important là-dessus sur le rôle des politiques agricoles dans le fascicule 2. Le fascicule 3 est censé, comme vous le soulignez, Simon, aborder la question de la propriété agricole, la propriété de la terre. Et là aussi, on devrait mettre en évidence que les politiques agricoles ont joué un rôle sur ces modalités de propriété de la terre et sur le niveau des prix atteints par ces terres. J'espère qu'on ne fera pas encore cette impasse là-dessus.
Mais puis, j'aimerais ajouter là-dessus que ces politiques-là n'ont pas servi l'agriculture, n'ont pas bien servi l'agriculture, et n'ont même pas bien servi, de façon générale, les gens qui pratiquent l'agriculture. On les a amenés dans un modèle qui est figé, littéralement, peu diversifié. Ce n'est pas nécessairement par goût qu'on a fait ça. C'est souvent... parce que c'était, dans le fond, on les amenait là, littéralement.
Il y avait une sécurité, il y avait des politiques qui avaient
garanti une certaine sécurité. Plutôt que de sécuriser le revenu global de la ferme en laissant le producteur choisir sa production, on les a amenés dans quelques productions très spécifiques, celles qui étaient soutenues par l'ASRA, et 40 ans plus tard, ce modèle-là, il est figé, et les gens vivent, et un certain nombre actuellement vivent cruellement des effets négatifs de ça dans le secteur du porc. Alors ça, on ne le dit pas. On ne dit jamais que ça n'a pas servi l'agriculture.
En soulignant ce que tu viens d'évoquer, il faut se souvenir que la raison d'être des politiques agricoles à leur départ, et c'est vrai au Québec, au Canada ou ailleurs, c'était de faire en sorte que le revenu des agriculteurs puisse rattraper un certain décalage avec celui du reste de la population. Or, en fait, les principaux constats qu'on fait aujourd'hui, c'est que c'est la capitalisation qui a été favorisée, c'est l'accumulation du capital, c'est en fait le volet financier de l'activité agricole qui a été favorisé par ces politiques agricoles, plus que le volet revenu lui-même. On le voit pour les politiques les productions qui ont bénéficié de l'ASRA, on le voit aussi dans les autres volets des activités agricoles, les productions sous gestion de l'offre. Quand on voit la valeur qui a été capitalisée dans les quotas de production, ce n'était pas ça qu'on visait au départ.
Non, effectivement.
Mais il y a du chemin à parcourir, parce que quand je regardais, on analysait un peu le dernier budget du ministère de l'Agriculture, là, le printemps passé, on voit que au moins les deux tiers du budget s'est consacré à deux mesures. Un, le remboursement de taxes. Que c'est le remboursement de taxes? Ça, c'est basé sur les superficies.
Et sur les valeurs. Et sur les valeurs.
La valeur, OK. La valeur.
Alors, parce que c'est très, très important, toute l'inflation dont Guy vient de parler.
Alors, c'est des centaines de millions qui sont consacrés au remboursement de taxes. Et l'autre grande mesure, évidemment, c'est l'assurance stabilisation. C'est d'autres centaines de millions. Alors, ce qui fait que ça laisse... Si on parle de rechercher une politique de diversification de l'agriculture, aider à faire des virages, bien, il reste peut-être pas beaucoup de sous tant que ça dans le budget, une fois que ces deux gros morceaux-là sont partis. Et une autre indication que peut-être la côte à remonter est importante. On voit actuellement les fédérations régionales de l'UPA se réunir en prévision du grand congrès de décembre. Et c'est quoi le discours qu'on entend? On n'est pas ici pour nier que l'année a été très difficile, que les producteurs ont connu des mauvaises... Les conditions climatiques ont été terribles. D'ailleurs, on a reçu récemment quelqu'un de la financière récolte qui nous a expliqué à quel point l'assurance récolte, c'est un record de tous les temps d'indemnisation. Mais c'est quoi le discours qu'on entend? On n'entend pas un discours demandant de changer le modèle, parce qu'on le voit que le modèle, il ne fonctionne pas si bien que ça. On entend un discours demandant plus d'argent. On veut de l'aide, on veut des injections de fonds d'urgence. C'est normal, c'est compréhensible, les gens sont un peu acculés, mais on ne se pose pas la question pourquoi on en est rendu à cette situation-là. Pourquoi les gens sont si endettés? Pourquoi les gens n'ont pas d'incitatif à aller vers d'autres choses que ce qui ne fonctionne pas très bien?
Ben, c'est un peu, tu reviens à la question que je disais, ça n'a pas bien servi l'agriculture, mais tu viens de dire un mot important, les fédérations, elles, ça a bien servi les fédérations, par contre, parce que autour de ces productions soutenues-là, on a développé des structures syndicales extrêmement grosses, fortes et riches. Et ça a bien servi pendant cette période-là. Ça peut expliquer de ce côté-là, on n'entend pas de voix contraire. On n'entend pas de voix qui dirait « changeons le modèle ». Non, c'est surtout le statu quo. Mais il est clair que ça a très bien servi.
On est, dans le fond, dans une situation de blocage. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que la consultation en cours, même si ça porte juste sur une partie de la politique agricole, soit l'occasion d'ouvrir le débat. Et nous, en institut, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, merci, chers amis.
En terminant, messieurs, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui est le plus important de retenir de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui dans l'émission?
C'est qu'il faut avoir une réflexion qui va au-delà du maintien des modèles, qu'il faut tout remettre sur la table. Là, on parle de la loi de protection du agricole, mais il faudrait qu'il y ait une réflexion aussi sur les politiques de soutien à l'agriculture, l'ensemble de l'œuvre pour qu'on sorte... On est dans des situations de blocage actuellement. Il faut vraiment profiter des difficultés en cours pour aller ailleurs.
Excellent.
Moi, j'ajouterais, il faut questionner le portrait qu'on nous livre là. Le questionner dans le sens, qu'est-ce qu'il veut dire? Et on va trouver des réponses.
Excellent. Eh bien, je vous remercie à vous trois. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, Isée.
On se retrouve dans une prochaine quotidienne. Puis je vous invite en passant à nous suivre sur la page Facebook. On a également le site web. On est un peu partout, alors vous ne pouvez pas nous manquer. Merci et on se retrouve une prochaine fois.
Merci, à la prochaine.
Merci.
Puis, ça va?
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélil, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
Alors, on est de retour à la quotidienne. Encore un sujet très, très chaud. Encore une fois, moi, je pense que je dirais que cette émission devrait durer 4 heures de temps parce qu'il y en aurait beaucoup à dire. Mais on peut quand même continuer sur le sujet qu'on avait abordé avant la pause.
Avec Guy. Allez-y, Guy.
Puis, client des fermes Loufa, et j'attends d'ailleurs mon panier. Il m'arrive le lundi pour moi, en fin d'après-midi. Et je voulais revenir sur ce qu'a évoqué Jean-Philippe, sur le fait que les paniers Loufa, ça ne comprend pas seulement les produits des fermes Loufa, dont on sait qu'ils sont essentiellement de certains légumes, tomates, laitues, etc. Et puis petites pousses, mais c'est aussi le produit de l'activité de toute une série de fermes aux alentours de Montréal, spécialisées soit en produits végétaux, c'est-à-dire que l'UFA va chercher aussi chez des concurrents, en quelque sorte des tomates qui viennent d'autres fermes que des siennes,
mais aussi des carottes, des oignons.
Des produits animaux, des produits laitiers, les fromages, tous les fromages viennent de micro-fromageries, même pas de la grande région, mais même d'une bonne partie du Québec, puisqu'on retrouve les fromages de Jean Morin à Sainte-Élisabeth de Warwick, ça fait partie de l'offre. Alors donc, ça veut dire que c'est tout un réseau qui est en voie d'intégration, qui articule plusieurs types d'agriculture, une agriculture plus urbaine, comme Jean-Philippe nous l'a décrit, mais aussi des agricultures de petite et moyenne dimension. Et puis, les rapports, comme le disait Jean-Philippe, n'ont pas toujours été harmonieux, mais on a l'impression qu'il est en train de s'établir un équilibre. Puis je voulais signaler aussi que sur le volet social, les fermes Loufa ont mis en place aussi un volet de distribution gratuite de paniers à des familles dans le besoin. Donc en fait, on va aussi plus loin, on rejoint quasiment les banques alimentaires sur ce plan-là.
Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. J'allais dire, ne parle des Loufa, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives personnelles là-dedans. Il y a beaucoup de gens, d'individus, de groupes qui font l'agriculture urbaine. Il y a des jardins communautaires et tout et tout. Quelles sont les tendances, Jean-Philippe, là-dedans? Est-ce que s'il y a eu un... Bon, évidemment, on en a parlé pendant la pandémie, bien sûr, toute la question de... la crainte de pas avoir des, de pas être approvisionné par les circuits habituels. Mais donc, ça a certainement un peu, disons le terme, boosté un peu ça. Mais est-ce que la tendance se poursuit? Est-ce qu'on continue quand même d'avoir des nouvelles initiatives dans ce sens-là?
Au niveau des proposeurs de projets, on a le même rythme là que pendant la pandémie. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, c'est les consommateurs. Ça, c'est le contexte inflationniste actuel, avec là l'ensemble, dans le fond, des coûts qui augmentent, des coûts de la vie qui augmentent, de logement et autres, qui va faire un lien là, avec Frontier solidaire, l'initiative par la suite. Mais c'est cette idée-là que aujourd'hui, les consommateurs achètent moins de produits artisanaux québécois, vont davantage dans les bannières à escompte, c'est Super C Maxi pour pas les nommer. Mais c'est clair que ça affecte l'agriculture urbaine qui vise essentiellement, du moins l'agriculture commerciale, le milieu de la restauration, qui aujourd'hui s'est pas relevé encore de la pandémie, affecte les distributions en épicerie indépendante, encore une fois mis en difficulté par la pandémie inflation post-pandémie. Et pour les gens là, de la classe moyenne qui pouvaient s'en permettre ces produits-là et autres, aujourd'hui, les augmentations des coûts de production atteint aussi les agriculteurs urbains. C'est clair qu'au niveau commercial, c'est une époque assez difficile, mais je pense pour l'ensemble de l'agriculture au Québec, là, particulièrement celle destinée au marché local là, avec des produits à valeur ajoutée. Mais sur toute la question agriculture urbaine, parce que par soi ou au milieu communautaire, on a une explosion d'initiatives. Les gens, là, dans le fond, justement, décident de faire un jardin pour sauver des sous, décident de s'inscrire dans un jardin communautaire ou un jardin collectif. On le voit que dans la plupart des grandes crises dans l'histoire, l'agriculture urbaine est apparue comme une solution à l'approvisionnement en légumes frais à des prix là, plus intéressants que ceux qu'on trouve sur le marché.
Jean-Philippe, j'avais envie de te demander si on constatait une certaine évolution dans la réglementation de la part des municipalités. On se souvient qu'à une certaine époque, on sait qu'à une certaine époque, l'agriculture urbaine, c'était quasiment quelque chose d'évident dans la mesure où, par exemple, une partie de la production laitière destinée à la population montréalaise se faisait à Montréal dans des fermes qui étaient sur le territoire montréalais. Il en allait aussi pour d'autres productions animales et que c'est essentiellement des raisons sanitaires qui ont conduit à évincer, à faire sortir ces productions de la ville. Et on comprend pourquoi, parce qu'il y avait des problèmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait l'impression qu'il y aurait une plus grande ouverture du côté des municipalités sur le plan réglementaire?
L'arrivée des plans d'agriculture urbaine, puis après ça, des plans de développement communauté nourricière financés en partie par le ministère de l'Agriculture, a permis à plein de municipalités de réajuster sa réglementation, que ce soit pour favoriser les entreprises d'agriculture urbaine, pour permettre l'élevage de poules, notamment là, dans quelques villes au Québec. Sur la question de la production laitière, ça sera pas demain la veille, possiblement, que les entreprises vont pouvoir prospérer à Montréal. Cela étant dit, il y a quelques années, j'avais invité là dans un de mes cours, parce que j'enseigne à l'Institut des sciences de l'environnement, la fondatrice d'Opalia, qui faisait du lait de laboratoire avec des cellules souches et qui promettait de commercialiser un lait fait à Montréal d'ici 3 ans. C'est-à-dire là, on est pas mal rendu à ça 3 ans plus tard. À savoir, est-ce qu'il y a un lait de laboratoire produit à Montréal avec des cellules souches de glandes mammaires de Holstein va apparaître sur les comptoirs?
Ben oui.
Ça reste à voir. C'était super intéressant parce que dans la classe, j'avais invité cette dame-là, puis la directrice des politiques à la Fédération des producteurs de lait du Québec. Oh, oui. D'un côté, on parlait d'occupation du territoire, on parlait du Bas-Saint-Laurent, on parlait de la vitalité des régions, puis de l'autre, on parlait d'éthique animale, on parlait de changement dans la consommation des consommateurs, c'est-à-dire je vois de plus en plus les arguments d'un bord puis de l'autre enrichissent le débat public, puis moi je rêve qu'on aille ce genre de débat-là plus souvent, puis peut-être que justement les consultations que le ministre est en train de faire actuellement vont permettre cet échange-là combien nécessaire entre la ville et les régions pour rétablir, là, dans le fond, un dialogue, chose qu'on a perdu à travers les années, parce que, bon, ben, il y a une nouvelle génération, leur oncle n'est pas nécessairement producteur de lait, ou dans les liens familiaux se sont perdus avec les générations qui se sont succédées. Il faut rétablir, il faut retrouver une manière de faire ces assemblées de cuisine-là, où on se faisait sensibiliser à l'époque par le mononcle lors d'un souper sur ce que c'est la réalité rurale. Et votre travail que vous faites nécessairement aide à faire ce dialogue-là. Il faut réussir après ça à ce que les gens dans les villes vous écoutent également, chose que je souhaite que ça va arriver de plus en plus.
Jean-Philippe, on va essayer de prendre quelques minutes. À moins que Guy ou Michel, vous ayez à rajouter sur la culture urbaine. Oui, il y a récemment beaucoup de choses.
Moi, je pense qu'on devrait reporter le oui, parce que c'est un sujet important, foncier solidaire, qui implique toutes sortes de choses, puis je trouve que ça vaudrait la peine qu'on fasse une émission là-dessus.
Alors, Jean-Philippe, c'est d'accord, on pourrait reprendre le rendez-vous peut-être la semaine prochaine où on s'en reparlera quand tu pourras être disponible pour faire une émission spécialement sur le foncier solidaire. Puis on va prendre les minutes qui nous restent pour finaliser la discussion sur l'agriculture. Moi, j'aimerais savoir, tu l'as évoqué tantôt, que bon, la période inflationniste qu'on connaît porte un dur coup au développement du marché de l'agriculture urbaine. C'est le cas aussi pour le biologique. On a rencontré récemment le directeur de l'Institut national d'agriculture biologique, puis il nous évoquait ça aussi, que bon, les producteurs biologiques ont des difficultés là, avec les coûts de l'alimentation. Est-ce que il y a certainement des mesures dans la politique bioalimentaire du Québec en faveur de l'agriculture urbaine, en faveur du biologique, mais est-ce que la place que ces secteurs-là occupent est suffisante? Est-ce que... compte tenu des difficultés que peuvent connaître le développement de l'agriculture urbaine et du biologique, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un virage dans les politiques agricoles pour soutenir davantage ces secteurs-là?
Ben, moi, je pense que oui. Puis que je crois de plus en plus aux subventions à l'achat et pas seulement la subvention à la production. On a mis en place au cours des dernières années une carte qui s'appelle la carte proximité, qui est financée là, par des fondations à Montréalaise, qui offre de l'argent sous forme de carte à des clientèles vulnérables afin d'acheter des produits distribués en circuit court, qui soient issus de l'agriculture biologique, l'agriculture urbaine, l'agriculture locale, pour faire en sorte que les gens qui sont peut-être moins en capacité d'avoir d'acheter ça, ben qu'on dirige les achats vers ça. Il y avait été question là, dans des rapports de mettre en place une taxe sur les boissons gazeuses qui pourrait peut-être aussi servir à distribuer de l'argent dans les communautés locales, peut-être plus défavorisées à la grandeur du Québec, pour favoriser l'achat d'aliments locaux. Puis un des grands rôles politiques publiques qu'il peut avoir, c'est l'alimentation institutionnelle. C'est-à-dire, comment ça que nos enfants, dans nos écoles, mangent pas bio local? Pourquoi les lunchs des petits amis de mes enfants sont remplis de bouffe transformée, suremballée et autres, puis qu'on n'a pas, comme dans l'ensemble des autres pays du G20, des alimentaires.
Je sens qu'Aisy va nous
Monsieur
rappeler
Vermette,
à l'ordre.
Vous êtes extrêmement intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui, mais... C'est certain qu'on va se... Oui, on va se donner un autre rendez-vous. C'est certain, certain, certain. Je remercie encore une fois mes beaux jeunes hommes de l'Institut Jean Garon. Merci, Simon.
Merci, Jean.
Merci, Michel.
Merci, Jean-Philippe.
Merci, Guy. Merci énormément à notre invité, Jean-Philippe Vermette. Ce fut un plaisir de vous écouter. Et à tous qui nous écoutent, c'est un rendez-vous à la prochaine quotidienne. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.
Merci. Au revoir.